car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches
un un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres? Non.
Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette première émission de Scène de vie, vie de scène, en compagnie donc de Nathalie. Nous animerons cette émission une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois. Voilà, bonjour Nathalie.
Bonjour JC, oui, une première émission pour, comme vous l'avez entendu sur le générique, vous parler de la scène et du spectacle vivant. Alors, première peut-être pour vous, une émission que l'on veut avec des ambiances, des sons donnés sur la vie du spectacle vivant, ceux qui font la scène, ceux qui gravitent autour de la scène.
Mais avant tout, comme on l'avait dit en préparant cette émission, une émission qui prend le temps.
Qui prend le temps.
Voilà.
Exactement, le temps de discuter d'un sujet, d'échanger, mais aussi de vous faire écouter des choses différentes.
Alors justement, aujourd'hui, qu'aura-t-on au sommaire, Nathalie?
Alors, pour notre première émission, on partira dans une ambiance de spectacle. Hier, j'ai traîné mon micro sur un spectacle vu à Malakoff. Et voilà, l'ambiance du public avant de rentrer en salle. Puis, on vous présentera la philosophie de l'émission, ce que vous y retrouverez. Et on y parlera de Tchekhov, d'un grand auteur russe majeur dans l'histoire du théâtre, donc Tchekhov et de sa Cerisée. Et puis, nouveau micro-trottoir avec une interview de gens comme vous et moi, qui, on aura posé la question, le spectacle vivant, votre première grande expérience avec le spectacle vivant, c'était quoi? Et on aura en direct leurs impressions. Enfin, mon invitée, Hélène, qui est avec nous, qui nous parlera, bien, elle, de son expérience aussi de spectatrice. Hélène, 23 ans, étudiante, qui est une férue des planches. Voilà.
Elle est déjà d'ailleurs avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et tu pourras bien entendu intervenir tout au long de l'émission sur un autre sujet que celui qui te concerne, voilà.
D'accord, avec plaisir.
Ah, on parlera également d'un spectacle concert pour les enfants, à voir en famille, Le secret de Fifaro, l'organiste. Un moyen de faire découvrir aux enfants l'orgue, un instrument assez insolite et inconnu et mystérieux. Et puis enfin, on terminera avec l'agenda, tous les spectacles que vous pouvez voir dans le mois, dans le coin, dans la région. Et puis voilà, ce sera le temps après de finir et clôturer l'émission.
Eh bien, tout de suite, nous vous proposons, sans plus attendre, de commencer avec l'ambiance.
On y va.
Thank you.
allez vous téléphoner, les filles. Vous n'avez pas les numéros de téléphone?
Non, regarde si c'est
pas. Oui, bah,
c'est pas. On va pas prendre autre chose.
Ah, oui, voilà, d'accord.
Voilà, c'était donc une ambiance qui se passait où d'ailleurs?
Alors c'est une ambiance, ça se passait hier soir au théâtre de Malakoff à Paris, où je suis allée voir un spectacle, le fil de Deep, magnifique spectacle de marionnettes. Et c'est un spectacle partagé en famille. Bon, voilà, il y avait des enfants collégiens et là c'était l'ambiance à la sortie du spectacle. Et ce qui m'a marqué, c'était deux petites filles qui se sont retrouvées sur cette sortie et qui ont échangé leur portable et leur contact pour se revoir. Donc c'est ce temps-là qui a permis de se rencontrer.
Donc le temps de sortie donc du spectacle est un temps d'échange où voilà, les gens se racontent ce qu'ils ont vu, comment ils ont sorti les choses. Les discussions, elles tournent autour de quoi? Du spectacle quand même?
Après le spectacle?
Oui.
Oui ou pas forcément? En général, il y a les impressions directes, hein, des « Ah, oh, c'était beau, j'ai aimé, j'ai pas aimé », et puis après vient « J'ai aimé, mais pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé ?» Et ça prend son temps, autour, on va acheter une affiche, on va rechercher le programme, ou du coup, on descend au bar aussi du théâtre, on échange autour d'un verre. Voilà, c'est toute une vie sociale, de rencontres qui se passe à l'issue de la représentation. Et puis, c'était le moyen, là, pour ces deux petites filles de se rencontrer, de se dire, on se revoit après. Voilà, un lieu de rencontre aussi. Alors, Hélène, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur l'impression.
Si, si, tout à fait, entièrement d'accord. Voilà. Un spectacle, c'est un lieu d'échange, c'est un moment de partage avant tout.
Donc voilà, ça donnait, puis c'est aussi, c'est vraiment, tout le monde parle finalement, ça dépend de l'ambiance, du sujet du spectacle, mais en général après un spectacle, on parle. On n'a peut-être pas parlé pendant le spectacle, au moment de la représentation, on a ri, on a eu des émotions, et puis on a besoin, en sortant, de libérer de quelque chose et de le partager. Donc ça parle beaucoup après.
Sur la première partie, c'est vrai que on est spectateur pour le coup, avec très peu d'action sur ce qui se passe. Et finalement, après, il y a un besoin d'aller échanger, un petit peu de se libérer de tout ça, quoi. Enfin, d'aller voir ce qui s'est passé chez les autres, peut-être.
Oui, 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 ouais.
En tout cas, d'expliquer ce qui s'est passé chez soi.
Exactement. Oui, oui. Donc, j'avais envie aussi dans cette émission, justement, si on parle un peu de l'ambiance, justement, de créer. Le spectacle vivant, comme son nom l'indique, c'est du vivant, sa vie. Ça se fait avec des gens, avec des auteurs, des artistes, des metteurs en scène, mais et aussi du public. Donc, dans l'idée de cette émission, c'était vraiment d'aller chercher du son sur des ambiances autour de la scène et du spectacle vivant. Alors là, aujourd'hui, c'était la sortie d'un spectacle, mais dans les prochaines émissions, on pourra, par exemple, aller capter, sentir l'ambiance d'un spectacle qui se monte, d'un point de vue technique, ou de sentir aussi l'ambiance, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans une salle juste avant que les portes ne s'ouvrent au public? C'est un peu aussi les idées, les questions qu'on se pose aussi tout à chacun, parce que quand on est spectateur, on est avant... derrière la porte, et puis on a juste la sensation du hall, voilà, et il se passe quand même plein de choses dans une salle avant qu'on l'ouvre au public. Bon voilà, c'est des sujets, c'est vraiment l'ambiance qu'on veut donner à l'émission.
Eh bien, on commencera donc à chaque fois cette émission Scène de vie, vie de scène, avec des bruits pris, en tout cas une ambiance prise à chaque fois dans un endroit différent.
Voilà, et on essaiera de le faire découvrir aux éditeurs à chaque fois.
Eh bien, c'est ça le but. Cette émission, elle a pour le but, comme on dit aussi, de prendre le temps. Voilà, on n'est pas pressé, c'est le midi.
C'est le midi.
On peut tranquillement déjeuner en écoutant l'émission. Nous, en tout cas, on peut prendre notre temps aussi pour développer des sujets, pour des fois juste prendre le temps de la réflexion.
Oui, moi je crois que c'est important de des fois des périodes, cette période aussi de rentrée où tout le monde en est dans des préoccupations. Il faut aller vite, il faut très vite inscrire l'enfant à une activité, il faut très vite aller chercher les dernières courses. Même sur le temps de midi, si on a une heure, en mangeant, on a le temps d'écouter des choses. Qui qui pose le temps d'une conversation ou de découverte d'un sujet, lié évidemment à la scène, hein, au spectacle vivant.
Et on espère également apporter la vie à ce moment-là.
Oui.
Nathalie, nous t'entendons depuis tout à l'heure, tu nous parles de scène, tu nous parles de vie, mais c'est pas par hasard si tu nous parles de tout ça. Et explique-nous un petit peu qui tu es.
Oui, alors pourquoi ? Voilà, bah je suis une personne qui aime le spectacle vivant. Je travaille dans une structure culturelle, dans un théâtre. Ça fait 15 ans que je suis en relation avec les artistes, avec les équipes, avec le monde de la scène. Alors quand je dis la scène, c'est bon, mon profil est plus scène, spectacle vivant, théâtre, musique, danse, spectacle à voir en famille. Et j'avais envie de faire partager aux auditeurs cet intérêt, ce qui est aussi ma profession, mais qui porte et qui apporte beaucoup en rencontres humaines, en sujets, en création artistique. Ah, c'est très inventif et j'avais envie de faire partager ça aux auditeurs.
Alors, spectacle vivant, tu nous dis que nous allons parler de spectacle vivant, mais qu'entend-on par spectacle vivant ? Le cirque est-il un spectacle vivant ? Les concerts de musique sont-ils des spectacles vivants ? La danse elle-même est-elle un spectacle vivant ? Qu'est-ce qu'on entend par spectacle vivant ?
C'est tout ce qui se passe autour d'une scène avec des gens, voilà, en vie, qui vous donnent directement un temps T, en présence, leur travail, leur création. Alors, c'est dans le spectacle vivant, dans les arts vivants, on a différents genres. Bien sûr, le plus emblématique étant le théâtre, avec la création, les metteurs en scène, les auteurs de théâtre, les metteurs en scène, les comédiens. Après, nous avons le monde de l'expression aussi par le corps, donc la danse. Le cirque, bien sûr, est un art de scène, hein, un art de la scène, avec évidemment un art de la piste. On a aussi la marionnette, qui est, en termes de spectacle vivant, une création. Un concert, un ciné-concert, peut être aussi le moment d'une création de spectacle vivant, du moment que ça engage des artistes, que ce soit des comédiens, des danseurs, des musiciens, des chanteurs, sur un plateau.
Et qu'en est-il du théâtre de rue ?
Et du théâtre de rue, c'est bien sûr du spectacle vivant. C'est donner un moment dans ce lieu qui n'est pas un lieu fermé, qui est un lieu des fois propre à tout un chacun, une rue, une place, l'expression artistique en direct. Oui.
Eh bien, très bien, on y voit un petit peu plus clair. Je te propose que nous faisions une première pause musicale et tu nous as sélectionné un premier titre.
Oui, un premier titre, San Severino. Voilà, un petit clin d'œil parce qu'il va passer le 12 octobre à Évreux. Voilà, c'était un moyen de donner une touche swing. Et puis c'est un personnage quand même assez aussi militant et engagé. Donc voilà, on part pour Saint-Séverino.
Stop ma spécialité, c'est que tout ce que j'entreprends finit par rater. Je suis monsieur des illusions, le roi de l'annulation et collectionneur d'événements qui n'arrivent jamais. J'ai toujours le sourire, tout est sans oublier. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Allez, swing the nul, swing the nul. C'est le swing the nul, oh mel, oh mel, oh mel, oh mel. Swing the nul, swing the nul. C'est le swing the nul, oh mel, oh mel, oh mel, oh mel. Il faut prendre une décision, au lieu de dire oui je dis non. Et dans le cas contraire, je fais tout le contraire. Je parle vers l'en à l'envers, et ma voiture n'est que la marche arrière. J'arrive en retard à chaque fois et au mauvais endroit. J'ai toujours le sourire, tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Allez, swing the nul, swing the nul. C'est le swing the nul, oh mel, oh mel, oh mel, oh mel. Swing the nul, ah, swing the nul, ah, ah. C'est le swing the nul, oh mel, oh mel, oh mel. Et swing the nul, swing the nul. l'envers, je serais peut-être dans le bon sens et pas dans l'autre sens. En prenant le bon côté de la chose, en inversant les faits et la cause, est-ce que tout rater ça serait pas tout réussir? Est-ce que tout rater ça serait pas tout réussir? Oh, swing de nul, swing de nul, c'est le swing de nul, oh, mal, 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 en déception, my best of my spécialité, c'est que tout ce que j'entreprends finit par rater.
Donc, Saint Severino, le swing du nul en live, quelque part, je ne sais où, mais voilà. Alors, Tchekhov. J'avais envie de vous parler d'un auteur majeur du théâtre et de la littérature russe avec Tchekhov. Voilà, c'est une émission qui prend son temps, qui vous permet de découvrir, d'entendre parler d'auteurs, d'artistes. Et Tchekhov est notre premier sujet. Alors, il est né en 1860, Tchekhov, dans une famille de son père était épicier. Grande famille, ils étaient 6 enfants, je crois. Et il a vécu une enfance assez dure de terreur. Faut imaginer, lever 5h du matin, aller dans l'épicerie jusqu'à 11h30 du soir avec le père toujours aux côtés de son fils, assez tyrannique, dans une ambiance extrêmement religieuse. Hein, il ne fallait absolument pas faire de faux pas. Et Anton Tchekhov donc va grandir là-dedans sous la terreur de son père et puis l'Église comme seul échappatoire, mais qui n'en est pas un du tout pour lui. Il va grandir, il va aller au lycée. Là, ça va être ses premières rencontres avec le monde et l'ouverture sur d'autres professeurs intellectuels et La littérature, l'écriture va commencer à le titiller. Il parvient à faire des études de médecin. Donc, sa famille quitte à un moment, parce que le père fait faillite, quitte son petit village de Russie et s'installe à Moscou. Et là, bien évidemment, c'est la grande ville, la capitale, et la rencontre avec les autres. La faculté de médecine, puisqu'il engage donc des études dans ce domaine, et ce qui prouve déjà son intérêt pour les autres, pour les gens, pour les gens de la vie simple, quotidienne. C'est quelqu'un qui vient de la province, qui est monté à Paris, qui arrive à se faire une situation et qui a une empathie, un regard pour les autres, une implication, un engagement extrêmement fort.
D'ailleurs, le rôle du médecin n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, à la fin du 19e.
Voilà.
C'était vraiment le médecin de famille avec un autre rôle.
Ah oui, et puis donc proche du coup des gens de leur réalité sociale. Mais pour Tchekhov, il y avait toujours une croyance dans le fait que l'homme peut s'en sortir. On peut, voilà, c'est élever les gens de leurs conditions. Et en cela, il sera extrêmement engagé. Puisque toujours aux côtés de son écriture, il exercera toujours la médecine. Donc, Tchekhov grandit. Son séjour à Moscou lui fait rencontrer d'autres écrivains. Il s'engage auprès d'un journal aussi assez engagé socialement. Voilà, c'est l'ouverture et il commence à écrire. Et son style est complètement novateur par rapport à la littérature russe de l'époque, c'est-à-dire qu'il engage vraiment le style de la nouvelle, c'est-à-dire des nouvelles brèves sur des histoires qui concernent les habitants de la Russie entière, hein, dans ces histoires de serfs ou de métayers en province, ou ce rapport aussi à la bourgeoisie. Donc on est vraiment dans un découpage social très très contrasté, hein, duétiste dans cette Russie. Et Tchekhov va vraiment innover par son style très concis, très précis et totalement dans l'intimité et la sensibilité des gens face à leurs conditions sociales. Et là, on reconnaît le médecin qui est engagé et la volonté de, d'élever toujours les gens et de les aider perpétuellement. Et il y a un fait marquant justement dans sa vie, c'est que comme il est très engagé, il me dit mais il faut changer. Je crois en l'homme et je crois en sa capacité de changer. Et à ce moment, je crois qu'en 1889, il part justement sur l'île de Sakhaline, qui est une île de forçat, de bagne, et il va y rester plus d'une année à étudier et à aider ces gens. Donc c'est une expérience marquante, totalement engagée, et d'où il sortira un recueil de nouvelles et de contes également, ce qu'on connaît moins Tchekhov par aussi sa littérature sur les contes. Donc voilà, pour vous cerner l'homme qui a été célébré de son vivant, puisque comme on a reconnu sa marque, sa patte et sa nouveauté dans l'écriture, donc il a été reconnu, joué de son vivant, ce qui est quand même énorme pour l'époque. Petite virgule.
Alors voilà, tu nous as donné un peu la vie de Tchekhov. Il joue une pièce, c'est ça ? On peut dire ça comme ça. Ouais. Qui s'appelle La Cerisaie, donc une pièce de la fin de sa vie.
C'est la dernière pièce.
C'est la dernière pièce. Voilà. Qui se joue où, comment, où et de quoi ça parle ?
Alors, alors pourquoi Tchekhov et pourquoi La Cerisaie ? Parce que là, à Louviers prochainement, dans le cadre d'une trilogie consacrée hein, à Tchekhov, sera jouée donc La Cerisaie à Louviers au Théâtre du Grand Forum les 20 et 21 octobre prochains par un jeune metteur en scène, Paul Desvaux. Et donc Cerisaie, c'est vraiment la dernière pièce. Ouais. Tchekhov a écrit des nouvelles, mais aussi il a écrit pour le théâtre. Et pourquoi il a écrit pour le théâtre ? Parce qu'il est tombé amoureux d'une comédienne. Quand il était à Moscou, il a vraiment côtoyé une compagnie, jeune compagnie de comédiens, d'artistes. Il est tombé amoureux d'une des comédiennes de la troupe et il a écrit beaucoup, beaucoup de ses pièces ont été écrites pour cette compagnie-là. Et La Cerisaie, il sait qu'il va mourir, il est malade. Et très tôt dans sa vie, il a contracté une grande infection pulmonaire. Et là, il sait qu'il va mourir. Et il écrit ce texte qui nous raconte l'histoire de cette cerisaie, donc de ce lieu où pousse, où on cultive hein, et on récolte les cerises hein, dans un grand domaine. Et c'est l'histoire d'une femme qui revient justement dans ce domaine-là, après l'avoir quittée pendant 6 ans. Elle revient là où elle a grandi, là où elle a vécu, là où elle a aimé, là où elle a la nostalgie du temps et du passé, où elle se rend compte aussi de ce qui a changé dans sa vie et dans l'histoire de la Russie. Donc c'est principalement à travers le personnage de cette femme que l'on a en même temps. Il y a toujours une double lecture hein, dans Tchekhov. On a l'histoire de cette Russie qui évolue, de cette nostalgie, la perte du passé. Mais on va vers autre chose. Donc, et à cette époque, là, ce que marque Tchekhov, c'est tout ce qui a été la période du servage, hein, de l'esclavage. Et à un moment, elle dit quelque chose de vraiment magnifique. Elle dit, vous voyez, elle parle à un de ses oncles, je crois. Et elle y regarde dans toutes ces feuilles, dans tous ces arbres, dans tous ces pétales de fleurs de cerisier. Ne sens-tu pas le sang de nos esclaves ? C'est à travers l'intimité, la sensibilité de cette femme, on a toute une partie de l'histoire de la Russie, mais aussi des rapports sociaux et de la condition humaine de l'époque. C'est extrêmement poétique, intime et très bouleversant. c'est à vous faire découvrir, si vous en avez envie, très dans le mois, très rapidement, au mois d'octobre.
Il y a déjà une plage de jours où ça va jouer. On sait déjà quand est-ce que ça va jouer.
Le 20 et le 21 octobre au Théâtre du Grand Forum à Louviers. Et pour ceux qui, voilà, qui veulent en savoir plus et connaître un peu le travail qui s'y fait, on ouvrira les portes du Théâtre du Grand Forum le mardi 12 octobre au soir pour assister à une répétition publique également de la pièce. Voilà, on verra les comédiens travailler ce texte et le metteur en scène, Paul Desvaux, qui est un metteur en scène de la région, nous parlera de Tchekhov, de sa cerisée et de sa création. Donc, entrée libre, rendez-vous le 12.
Eh bien, très bien, c'est noté. Nous refaisons une pause musicale avec un autre titre de ton choix.
Oui, donc FM Belfast.
Ta première expérience avec le spectacle vivant, tu t'en souviens ?
C'est pas la première, hein, mais celle qui m'a le plus marquée il y a quelques années, c'était donc le spectacle Rain de la chorégraphe Anna Teresa de Kirchmaker. Je suis pas très sûre du
Kirchmaker.
Voilà. Mmh. Et ça m'avait complètement éblouie. Je l'avais vue deux fois en 8 jours, et j'avais trouvé ses corps magnifiques, la chorégraphie complètement envoûtante, et ça a été un grand moment pour moi.
Ce qui t'a donné envie de le revoir
une deuxième fois, et j'ai eu cette possibilité et je me suis précipitée.
Tu avais l'impression de ne pas avoir tout vu, ou c'était quoi? C'est comme voir un film que tu aimes et du coup tu t'en lassais pas de revoir.
C'est les deux, c'est-à-dire qu'on s'en lasse pas, et puis c'est vrai qu'on ne voit pas tout, on n'entend pas tout, c'est toute une ambiance, ça valait le coup de le revoir une deuxième fois. Mmh. Et si ça repassait, j'y retournerais avec plaisir.
Donc c'est beaucoup
surtout
plus.
Oui, puis j'allais dire surtout un spectacle. Enfin, le spectacle vivant, c'est même spectacle d'une représentation sur l'autre, c'est pas la même chose. Donc de toute façon, c'est du vivant, hein.
Oui, il peut y avoir à chaque fois une nouvelle forme, quelque chose qui se passe de façon spontanée, imprévisible.
Tout à fait, tout à fait.
Bah merci Laurence.
Je t'en prie.
Alors Martine, est-ce que tu pourrais nous témoigner de ta première ou d'une expérience de spectacle vivant qui t'a marquée, ou voilà?
Oui. Alors depuis tant que je fréquente le théâtre ici sur Évreux, bon, ça fait 23 ans que j'habite à Évreux, et bon, depuis que je suis sur Évreux, j'avoue être abonnée, hein, et venir régulièrement au théâtre. Et il y a vraiment quelque chose dont j'ai un souvenir formidable, c'est le Cirque Plume au Cadran. Et pourtant, ça remonte il y a quelques années. Hein. Mmh. Vous aviez donc programmé le Cirque Plume, et alors qu'on s'attend plus ou moins à un cirque un peu habituel, dès qu'on prononce le mot cirque, avec des clowns, animaux, etc. Quelques animaux, même si c'est, on imagine bien un éléphant au Cadran qu'on a du mal à, on aura du mal à faire entrer. Mais je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu, à des gens qui voltigeaient dans la salle, à des numéros sur scène pleins de poésie. Enfin, il y avait des choses extraordinaires, vraiment auxquelles je ne m'attendais pas au sein du Cadran. Et ça, c'est vrai que ça m'avait marqué, à tel point que l'année dernière, j'ai su que le Cirque Plume se produisait à Elbeuf, et donc je suis allée les voir, les acteurs. Et c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de poésie. Bon, il y avait moins l'année dernière dans le spectacle qu'ils présentaient, il y avait beaucoup moins de voltige. J'aurais voulu retrouver ça. Donc j'étais un petit peu déçue de ce côté-là, mais c'était plein de poésie, et c'est vrai que c'est un théâtre qui est complètement différent de ce qu'on peut, un cirque complètement différent de ce qu'on peut attendre.
Voilà,
pour moi, ça a changé beaucoup de choses.
Ça a changé ta représentation.
Si bien que Elbeuf, je sais qu'il faut énormément de choses sur le cirque, et c'est vrai que je suis très tentée d'aller voir beaucoup de choses concernant le cirque à Elbeuf. Et que vous êtes en partenariat en plus avec, et donc du goudron et des plumes que vous programmez aussi, possibilité de se rendre là-bas à Elbeuf, bien sûr, je vais aller voir.
Bien. Ben, merci Martine.
Ben, de rien.
Voilà les impressions du public, de spectateurs lambda interviewés au hasard des rencontres ou pendant la journée. Et je leur ai posé une question qui était: votre première expérience marquante du spectacle vivant, c'était quoi? Voilà. Et donc, on a eu deux témoignages de personnes qui spontanément ont répondu à cette question. Et...
On remarque d'ailleurs qu'ils avaient des choses à raconter, du coup. Enfin, c'est que c'est pas anodin, une rencontre avec le spectacle vivant.
Et là, en l'occurrence, ça a été des réactions très positives. Mais moi, il m'est arrivé d'avoir des réactions au contraire qui n'étaient pas dans l'empathie, ou qui pouvaient être très en désaccord. J'ai pas compris. Oh là là, je me souviens, c'était barbant, ma première expérience. Mais quand on pose cette question-là, ce que j'ai remarqué, c'est quand même le côté « j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire » qui vient. Finalement, même si dans la pratique, on se dit « oh, quand ça m'a pas plu, je vais pas y revenir, j'en ai marre », mais c'est l'expérience quand même positive qui est la plus marquante qui vient.
On se retourne maintenant vers voilà. Hélène, notre invitée, qui elle aussi... J'allais dire voix du spectacle vivant, mais non, du coup, elle y participe, vu que ça se vit, le spectacle vivant. Donc voilà, je voyais pendant les sujets qu'on écoutait juste avant, notamment celui de Laurence et de Martine, que ça opinait de la tête en disant oui, notamment quand on parlait du cirque plume.
Tout à fait. Oui, je rejoins tout à fait l'avis de Martine au sujet du cirque plume. C'est vraiment remarquable ce qu'ils font parce qu'en fait, voilà, contrairement au cirque traditionnel qu'on retrouve sous les chapiteaux, clowns, etc., le cirque plume nous raconte une histoire qui est remplie de poésie. Et c'est un voyage en fait. Le cirque plume nous transporte et c'est vraiment un voyage féerique et avec des performances mais vraiment vraiment remarquables. Ouais.
Alors toi, Hélène, tu es une jeune étudiante, enfin qui sort justement, ça y est,
c'est fini, là.
C'est fini les études, c'est fini, la vie active commence. Et voilà, je t'ai choisie parce que tu as quand même une pratique de, voilà, t'es public, tu as écouté énormément de concerts, je sais que voilà, t'as une pratique musicale incroyable, et puis t'en es venue aussi aller voir des spectacles vivants. Et j'avais envie déjà de te poser à toi aussi cette première question, ton expérience marquante. Positive ou négative, du spectacle vivant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit ?
Spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est la pièce « Cet enfant » donc de Joël Pommerat. Mmh. Parce qu'en fait, donc, « Cet enfant », c'est une pièce qui est très émouvante parce que ça parle de la relation parent-enfant, mais sous plusieurs angles. Et c'est vraiment une pièce qui m'a bouleversée, en fait. J'en suis ressortie, j'étais bouleversée, enfin... Les textes sont très forts. Et quand on sait d'où ça vient, en fait, le concept est très intéressant parce que Joël Pommerat a vraiment créé cette pièce à partir de témoignages de femmes, entre autres. Et donc, c'est vraiment une pièce qui reflète une réalité et c'est ça qui est poignant. Voilà, donc Joël Pommerat est un metteur en scène que j'apprécie beaucoup. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure en disant que quand on sort d'un spectacle, on en discute quoi qu'il arrive. En fait, c'est ça qui est remarquable dans les airs vivants, c'est que ça ne laisse pas indifférent. Il n'y a pas vraiment de « j'ai aimé, j'ai pas aimé », c'est pas si extrême en fait. C'est toujours modéré et on trouvera toujours quelque chose à redire dans ce qu'on vient de voir, même si c'est négatif, ça peut arriver. Par exemple, je sais que Joël Pommerat, le fait que ce soit du théâtre amplifié, c'est-à-dire donc qu'il y a des micros, donc ça c'est assez surprenant dans le théâtre. Normalement le théâtre classique, j'ai envie de dire, c'est la voix naturelle et certainement pas amplifiée. Et je sais que certains ça les perturbe. Bon, moi par exemple ce côté-là, au contraire, je trouve que ça renforce dans l'émotion, ça rajoute de l'émotion. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est après c'est en discuter entre nous.
Et ce que je rebondis aussi sur ce que tu dis sur le travail de Joël Pommerat et aussi ce qui se fait dans le théâtre. C'est intéressant, c'est que le théâtre c'est un lieu de création, d'expérience, expérimentation. C'est un plateau, voilà. Et le travail de Joël Pommerat c'est aussi un travail sur le son et sur le son et l'image. Ça veut dire qu'au théâtre, on peut dépasser le son uniquement par la voix. Donc la voix, ça, bien sûr, c'est le comédien, c'est la prestance, mais c'est aussi un lieu où la création sonore, même au théâtre, sur un texte, est possible. Voilà. Donc, c'est pas seulement lié aux scènes de la musique ou du concert. Voilà. Après, c'est chaque univers aussi, c'est l'univers de chaque metteur en scène, artiste, qui met sur cet espace du plateau et qu'il donne à voir au public. C'est intéressant. Et donc oui, expérience, donc Joël Pommerat, et t'en es venu comment toi, à voir des spectacles, des concerts hein? Quel a été un peu l'élément déclencheur
En fait, avant toute chose, moi je suis une passionnée de musique. Voilà, je suis musicienne, enfin je joue du piano en amateur, mais voilà. Et donc, avant surtout, j'allais voir les concerts, donc je fréquentais le festival de rock dans tous ses états, l'abordage, etc. Et en fait, par la suite, justement, j'avais cette passion pour la musique, et plus largement pour la culture, parce que je fréquentais aussi Vivacité, le festival des arts de rue à Sotteville-lès-Rouen, que je conseille vivement à tout le monde. Et ça m'a donné envie de continuer mes études dans ce domaine. Donc j'ai fait une licence en musicologie, maintenant on retrouve la musique. Et j'ai enchaîné en fait sur un master professionnel à l'université de Rouen, qui est axé sur le développement des publics de la culture. Et c'est ce master, cette formation qui m'a ouvert les portes sur les arts vivants, donc au-delà de la musique, donc c'est-à-dire le théâtre, et la danse. Mmh. Voilà. Donc, depuis 2 ans, j'ai une pratique de spectatrice assidue, on va dire, autour du théâtre et de la musique et un peu de la danse. J'ai toujours un peu de difficulté avec la danse, notamment contemporaine. Mais bon, c'est assez délicat dans ce contemporain,
oui,
je pense.
Je pense qu'on ira faire un sujet là-dessus dans une prochaine émission.
C'est intéressant ce que tu dis, Hélène, parce que dans la façon dont tu pratiques le spectacle, d'ailleurs c'est bien le terme que tu emploies, c'est pratiquer le spectacle, tu dis j'ai du mal avec la danse, mais finalement...
J'y vais quand même.
T'y vas quand même. Alors, oui. Qu'est-ce qui te pousse au bout d'un moment à y aller alors que t'as du mal?
La curiosité, tout simplement. Je pense qu'aussi c'est ça, la démarche pour beaucoup. Je ne veux pas généraliser, mais je pense que beaucoup, c'est la curiosité. Est-ce qu'on va lire? On va lire un petit résumé de spectacle dans une brochure. Bon, au premier abord, mon danse contemporaine, ça fait peur. Enfin, moi, ça m'effraie toujours un petit peu. Mais toujours, il y a ce côté curiosité. Mais justement, qu'est-ce qui m'effraie dans la danse contemporaine? Pourquoi ça m'effraie tant? Et quand j'y vais, parfois, par exemple, Angéline Préljocage, je ressors de Blanche-Neige. Je suis sceptique, hein, ça m'a pas assez... très particulier, j'ai pas retrouvé l'histoire de Blanche-Neige vraiment, enfin ça m'a un peu déstabilisée. À l'inverse, j'ai vu Rock de Galota, et bien là c'est de la danse contemporaine, mais déjà c'est plus accessible je pense pour un public qui est pas initié, donc comme moi hein, j'y connais strictement rien dans ce contemporaine parce qu'en fait Rock de Galota il y a une bande son qui en fait sont des tubes de rock, je sais pas, des années...
Oui, c'est une lecture d'histoire du rock.
Donc la danse, les mouvements...
Elvis Presley, YouTube.
Voilà, donc c'est la musique, nous, enfin tout le monde la connaît plus ou moins, donc on se raccroche à ça. Et donc même si on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe sur scène, parce que ce sont des mouvements vraiment de danse contemporaine, hein, c'est pas de la danse classique, c'est pas du ballet, eh bien on se raccroche à la musique et du coup on y trouve plaisir. Enfin moi j'ai pris du plaisir à voir ce spectacle. Voilà, donc mais c'est toujours la curiosité qui me pousse à aller voir un spectacle, en fait.
Mais ce qui veut dire que j'aimerais bien faire un prochain sujet sur la danse et la danse contemporaine, au contraire.
Eh bien, écoute, nous avons toute l'année pour nous y atteler.
C'est sûr. Peut-être petite pause musicale.
Eh bien, Hélène est venue avec la pause musicale qui va suivre, qui est donc...
Donc, c'est Smile de Hocus Pocus.
Et on reviendra juste dessus, on reviendra dessus juste après, pardon. Just give me that smile. No, no. Oh, baby, come on. No, no. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh, baby, come on. Duh. I can't live without it. Twice, not three, baby. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire que je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smile au deck avec celui qui dessine tes fossettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Just give me that smile. Laisse-moi te tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les temps. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Donne-moi. I can't live without it. No, I can't. I need that one, need that twice, not three, baby. Just give me that smile. Mais c'est ta dame. Je zoome, lâche ta plus belle arme. Ça tourne, je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développez les négatifs de ce moment positif. Fixé, 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 l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Duh. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. Just give me that smile.
No, I can't. I need that one again. Not twice, not three, baby. Just give me that smile.
Donne-moi ce sourire.
Well, baby, come on.
Donne.
I can't live without it. No, I can't. I need that one again. Not twice, not three, baby.
Baby,
donc voilà, Smile du collectif d'artistes Hocus Pocus, donc extrait de leur album précédent Place 54. Brièvement, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que ce collectif d'artistes est très étonnant, car c'est un genre un peu hybride, un genre musical. Voilà, c'est un métissage entre du hip-hop, du jazz, des sons électro. Et voilà, c'est tout ce que j'aime dans ce collectif.
Bah merci Hélène de ce passage pour nous expliquer un petit peu ce qui te passionnait dans l'art vivant, dans le spectacle vivant, mais c'est de l'art vivant de toute façon. Et puis la présentation de ton choix musical. D'ailleurs, t'as vu Nathalie, elle a pas eu besoin qu'on la relance derrière. Ça y est, elle a pris l'habitude.
Ça y est, c'est parfait, c'est lancé.
Qui sait, peut-être deviendra-t-elle chroniqueuse, allez savoir.
Autant. Peut-être sur une prochaine émission.
Exactement. Tu voulais nous parler, Nathalie, également. Enfin, nous souhaitions parler, d'ailleurs, du secret de Fifaro, un spectacle familial.
Oui, le secret de Fifaro, l'organiste. Alors, un moyen de faire découvrir aux enfants un instrument totalement méconnu et mystérieux qui est l'orgue. Alors, il faut le savoir, à Évreux, nous avons un magnifique orgue contemporain. C'est extrêmement rare en France, généralement en Europe, que de construire un nouvel orgue. En général, on se base sur les anciens. Et là...
Alors, qu'entends-tu par orgue?
Orgue, c'est l'instrument des cathédrales, donc dans la cathédrale d'Évreux, qui à l'origine servait pour les messes et les offices. Et maintenant, il y a vraiment une création, une composition d'aujourd'hui, contemporaine, autour de cet instrument-là. Et l'idée, c'était de faire découvrir aussi cet instrument à travers un festival, et de le faire découvrir également aux enfants. D'où la programmation de ce spectacle, Le Secret de Fifaro, l'organiste, qui est présenté le 6 octobre à 18h à la cathédrale.
Donc effectivement, on peut avoir que comme espace de scène la cathédrale pour un orgue. Hein. Ce sont des monuments. Hein. Bien oui. Souvent, ils font quasiment l'intégralité de la hauteur de l'édifice. C'est presque une cathédrale construite autour d'un orgue.
Oui. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas l'habitude de rentrer dans la cathédrale, pousser la porte et aller voir cet orgue-là qui est quand même assez imposant, magistral et très coloré, comme l'étaient les églises romanes et début du gothique aussi. C'est vraiment un clin d'œil à l'ambiance de l'intérieur des cathédrales. Voilà, donc ça c'est découverte. Et j'avais aussi envie de vous parler d'un carillon, parce que samedi 9, je crois, dans Évreux, vous aurez un carillon ambulant.
C'est ce qu'on entend.
Voilà, on entend les petites notes. Qui est de 10h du matin jusqu'à l'après-midi, vous jouera, sonnera des mélodies propres à cet instrument qui n'est là pas un orgue, mais des carillons, ce sont des cloches. Mais dans la technique du jeu, c'est très proche de la technique instrumentale pratique de l'orgue.
Alors donc, ça se joue également en beffroi ou en clocher, le carillon
oui.
Aussi?
Oui, oui, en beffroi, généralement. Puis ça vient du nord de la France, hein, c'est culturellement.
D'ailleurs, ce qu'on entend derrière, c'est le carillon de Douai.
Voilà, et c'est celui qui viendra à Évreux jouer, animer. Enfin, là, c'est aussi donner une animation dans la ville autour de cette présentation du festival d'orgue et décider de mettre un carillon assez imposant parce qu'il est sur une remorque et avec plus de 48 cloches qui sonnent à différents moments. Voilà, donc je vous invite à l'écouter. Ce sera donc le samedi 9 octobre, 10h, 12h, 14h, 16h et 18h. Évidemment, c'est dans les rues, c'est gratuit, on va faire son marché, on sort du marché, boum, on entend un petit carillon. Et c'est le carillon de Douai qui est là.
Alors c'est un instrument quand même assez particulier, c'est pas, ça ne se travaille pas en école de musique. Hein.
Non.
C'est bon, c'est sur une base de clavier. tout de même, mais c'est des joueurs particuliers. Je voyais l'autre jour, quand tu m'as envoyé donc le lien, parce que pour savoir, pour prévenir les auditeurs, on prépare un peu l'émission. Et donc, tu m'as envoyé un lien sur Internet et on voit que c'est le maître carillonneur de Douai qui officie. Voilà, il y a quand même toute une culture autour, toute une tradition.
C'est une tradition liée à une région. Et donc, qui dit tradition, dit rituel, dit organisation bien précise. Et donc, oui, c'est un maître carillonneur qui joue de l'instrument, qui peut être transmis aussi. Hein. On peut apprendre à jouer du carillon. Enfin, il y a tout aussi une volonté de transmission de cette culture.
Absolument. Sauf qu'au moment, c'est le maître carillonneur qui monte au beffroi. Et qui joue, c'est lui et voilà.
C'est un peu comme l'appel du muezzin, c'est vraiment une personne et un rôle bien précis.
Sur Douai, par exemple, c'est depuis 98 que c'est...
C'est réhabilité.
J'ai oublié le nom de ce maître carillonneur, quelle honte.
Il y en a plusieurs, il y a Jacques Lannoy, qui est vraiment le maître carillonneur, en l'occurrence à Douai.
D'accord, on fait une petite pause de carillon.
Et ben voilà, et les sont portés par les petites notes. Te serais-tu inspiré des carillons pour la virgule musicale?
Allez, Savernant, je me suis inspiré d'un chant traditionnel portugais, on peut le dire, hein, qui s'appelle, je ne vais pas le trouver, c'est en portugais, je vous le retrouverai pour une prochaine, histoire que vous ayez quand même l'intégralité de l'histoire de tout ça. Hein. Pour les bandes-sons, du coup, tu en parles, pour les bandes-sons sur lesquelles nous parlions, et pour le générique, ce sont des musiques prises du Cirque du Soleil.
Voilà, exactement. Juste vous parler, c'est une émission extrêmement contrastée. Vous avez vu, on passe sur une bande musicale entre FM Belfast au carillon. Je trouve ça intéressant parce que c'est pour marquer la diversité justement liée aux arts de la scène et au spectacle vivant. Voilà. Donc ça ne veut pas dire seulement théâtre et texte, c'est vraiment une diversité incroyable. Alors, maintenant, j'avais envie de vous parler, de vous présenter l'agenda.
Oui, parce qu'on parle de spectacle vivant, mais finalement, faut y aller au spectacle vivant.
Mais oui, si on vous a donné un peu l'envie ou si vous êtes curieux comme Hélène, on vous présente en gros quelques spectacles que vous pouvez voir pendant le mois d'octobre. Alors, on a entendu San Severino. En début d'émission, donc San Severino, le 12 octobre au Cadran, voilà, jazz manouche. Après, je vous conseille justement un spectacle de danse. Hélène nous a parlé un petit peu de son rapport à la danse contemporaine. Mais là, il y aura I de Itra, de la compagnie Itra, qui est une jeune compagnie qui est soutenue aussi par le Moulin à Louviers. Et là, c'est vraiment sur une danse sur les états d'enfance premiers. On est tout petit, qu'on n'a pas encore la parole, mais qu'on cherche quand même et qu'on sait très bien se communiquer. Donc ça, voilà, ça travaille ce thème. Les représentations seront donc à Louviers au Moulin les 14 octobre et 15 octobre. Et puis enfin la cerisée de Tchekhov, mis en scène par Paul Desvaux, les 20 octobre et 21 octobre également à Louviers. Et puis, bien sûr, hein, le carillon, Fifaro, de quoi sortir. Voilà pour l'agenda.
Je voulais revenir juste une petite seconde avec Hélène. Est-ce qu'il y a des... Donc ça, c'est la sélection de Nathalie. Est-ce qu'il y a des spectacles, toi, dans les semaines à venir, dans le mois qui vient? Là, on te surprend, hein, très clairement. Elle n'a pas eu le temps de préparer. Elle est en train de feuilleter, Hélène. Est-ce qu'il y a des choses qui a priori, te tentent?
Moi, déjà, il y a Piscine Pado qui me tente bien parce qu'en fait, j'ai déjà vu... Donc, c'est la compagnie, la Piccola Familia, mise en scène de Thomas Joly, que j'ai déjà vu leur précédente pièce Toi, une pièce de Sacha Guitry, qui m'avait énormément plu. Alors c'est particulier, c'est un peu décalé, enfin en tout cas le style sur Toi, hein, était assez décalé, c'est drôle, les comédiens sont remarquables, ils ont une énergie arvante qui est vraiment très impressionnante. Et donc je me dis déjà Piscine Pado, le titre est déjà attise ma curiosité, une fois de plus on en revient à la curiosité, et donc je pense que celui-ci je vais y aller, et donc je ne sais plus quand est-ce qu'il est
un peu plus tard,
c'est un peu plus tard, et je sais qu'en fin de saison il y a aussi Une Minute Encore, je ne sais plus,
de Thomas Germaine,
oui. Voilà. Et je sais que je l'ai loupé, il a tourné pas mal, je l'ai loupé, et alors ça va être un texte à mon avis qui doit, enfin c'est forcément bouleversant, et j'en ai eu des très bons échos, ouais. Aussi, ouais.
J'ai un spectacle que j'ai vu à Avignon cet été, très fort, puisque c'est sur les textes de Charlotte Delbault, récit d'une personne qui a été internée à Auschwitz et qui en est sortie. Mais on en parlera de Thomas Germaine, parce que faut savoir, Thomas Germaine, c'est un ancien athlète de haut niveau qui fait du théâtre maintenant. Donc ce sera peut-être une belle rencontre. Voilà pour l'émission, l'agenda. Merci à Hélène. Conclusion, si vous le souhaitez, on se retrouve au prochain premier vendredi du mois, donc ça veut dire
le 5 novembre, voilà, ça sera le 5 novembre, pour parler encore de scène de vie, de vie de scène, c'est un peu le concept. On prendra une fois de plus notre temps.
Oui, j'espère que vous
parce
avez
qu'on ne sait pas faire autrement.
Non, je pense que c'est un sujet sur lequel je ne vois pas trop comment dire très vite ou parler très vite d'un sujet ou d'un spectacle, parce que c'est lié aussi à des expériences et sur vraiment des sensations propres à chacun.
Quelques liens pour des auditeurs qui voudraient se renseigner sur des programmations à venir?
Oui, le lien. Donc, celui du Moulin à Louviers. Le Moulin, là j'ai zappé l'histoire des liens. Il y a celui évidemment aussi du Théâtre d'Évreux, la scène nationale, scène-nationale-evreux-louvier.fr.
D'ailleurs, je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on continue à s'embêter à donner des adresses. Tout le monde sait se servir d'un moteur de recherche. Voilà, allez donc voir du côté du Moulin à Louviers.
Moulin à Louviers, vous avez la programmation également du théâtre. Vous avez la programmation aussi sur Automne en Normandie, qui vous donne une offre plus générale sur la région, entre Le Havre, Rouen, Dieppe, Évreux, le département de l'Eure. Voilà, c'est une rentrée, donc qui dit rentrée, beaucoup de propositions.
Eh bien, j'ai juste envie de conclure en disant allez vivre des spectacles.
Allez, au prochain spectacle.
Au 5 novembre pour nous.
Au 5 novembre, merci.